Bonjour à tous, c'est toujours un très grand plaisir que d'accueillir Claude Gauvard, en plus dans les salons Albert Mola. Ce soir, j'ai le plaisir de la recevoir pour ce dictionnaire de l'historien qu'elle a co-dirigé avec Jean-François Sirinelli. Alors, elle est souvent dans de grandes entreprises éditoriales au PUF avec Jean-François Sirinelli. Elle a déjà travaillé avec lui pour l'Histoire de France. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de ce nouveau projet? Quelles sont ses ambitions, ses motivations?
Merci beaucoup d'abord de m'accueillir ici. Merci à la librairie Mola, qui est quand même une merveille. Vous avez beaucoup de chance, les Bordelais, d'avoir une librairie aussi bien fournie et compétente. Donc profitez-en bien vraiment, je vous envie. Voilà, même parisienne, c'est pas si simple à Paris d'acheter des livres. Alors que là, on sait que si on vient ici, on a tout. Hein, bon. Donc, merci beaucoup, chers collègues, de vous prêter à cette interview amicale. Donc, pourquoi ce livre? Eh bien, d'abord, parce que c'est dans la grande tradition, effectivement, des presses universitaires de France que de mettre en place des dictionnaires du savoir. Et quand c'est venu d'une commande, par certains côtés, la commande de l'ancien directeur, Michel Prigent, qui est maintenant décédé, et brutalement, et qui nous avait demandé, à Jean-François et à moi-même, de faire l'équivalent du dictionnaire du littéraire. Imprudemment, on a dit oui. Et puis la chose a traîné. Elle a traîné parce que c'est une très grosse entreprise, on va y revenir, je pense. Mais en même temps, on était quand même taraudés par l'idée que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que l'histoire traverse, paraît-il, une crise. En regardant les titres qui étaient tout à l'heure dans la librairie en bas, là, je ne suis pas sûre que cette crise soit si visible. Mais en tout cas, les historiens pensent qu'il y a une crise. Et vous savez, la crise et la discussion sur la crise alimentent la crise. On pourra y revenir, si vous voulez. Donc, je me suis sentie, je suis plutôt une battante, et j'ai plutôt envie de dire qu'il faut avancer, plutôt que de se laisser dans un marasme. Donc j'ai dit à Jean-François, on y va quand même, allez. Le résultat, c'est quand même 200 auteurs, 355 entrées, un comité scientifique, qui d'ailleurs est un comité PUF, je m'explique en disant PUF, comité revue historique, on va dire, plutôt. Hein ? Comité de la revue historique, je dirige la revue historique avec Jean-François Sirinelli depuis 1998. Et cette vieille dame, puisqu'elle est née en 1876, elle va fêter son 150e anniversaire l'année prochaine. Cette vieille dame a quelques règles de déontologie que je partage avec Jean-François Sirinelli, c'est pour ça que nous avons accepté la direction et que nous avons essayé de faire passer à l'intérieur du dictionnaire. Comment est-ce que nous voyons le métier d'historien? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Très ambitieux, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Quelles sont les mutations de l'histoire et du métier d'historien? Est-ce qu'on est capable d'y répondre? Voilà, une sorte de bilan, si vous voulez, d'arrêt sur image, hein, forcément. Puisque l'histoire est sans cesse en marche, c'est forcément un arrêt sur image. Dans 20 ans, il sera périmé. C'est pas grave. C'est un état de l'historiographie actuelle, je pense.
Alors, vous voulez nous parler de la revue historique. Donc, en fait, c'est pas le manifeste d'une école. C'est pas une équipe resserrée. C'est pas...
Non, enfin, c'est ça et pas ça. C'est-à-dire que c'est pas le manifeste d'une école parce qu'il n'y a pas d'école. Je veux dire que justement, notre attitude à la revue historique, c'est de dire, voilà, les historiens peuvent avoir des interprétations différentes. Si, scientifiquement, ces interprétations sont fondées, s'ils sont arrivés à cette conclusion en ayant, si vous voulez, exercé leur métier d'historien, nous Et si l'article, donc, est bien rédigé, parce que c'est très important le récit, on publie. Donc, je ne peux pas dire que c'est une école. Ce n'est pas une école comme l'école des annales. Vous voyez, la revue historique. La revue historique, il faut revenir à Gabriel Monod en 1876. La revue historique, c'est une revue où les articles doivent être rédigés selon les règles de l'art de l'histoire. Autrement dit, administration de la preuve, démonstration, écriture. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près cela. Avec une ouverture que nous avons faite vers l'histoire ancienne, car primitivement, il ne devait pas y avoir d'histoire ancienne dans la revue historique. Ça, c'est une nouveauté, si on peut dire, depuis 1998. Et nous avons d'ailleurs le secrétaire, un des secrétaires actuels, qui est Stéphane Benoît, qui est professeur d'histoire ancienne à l'université de Lille 3. Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a... nous avons ce soir un public assez divers, par les tranches d'âge, par les centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a un public plus précis? À quel public s'adresse ce dictionnaire? Est-ce aux étudiants? Est-ce aux collègues? Est-ce un public d'érudits?
J'allais dire un peu à tout le monde, c'est-à-dire, enfin, pas bien sûr, des gens qui ne sont pas attirés par l'histoire, c'est évident. Mais ça n'est pas forcément destiné à des archis spécialistes. Il y a des entrées simples, mais en même temps qui font réfléchir. Je parlais tout à l'heure en aparté, une entrée sur le totalitarisme, par exemple. En tant que citoyen, on ne peut qu'être, comme on dit maintenant, qu'interpellé par ce type d'entrée. Vous avez aussi des entrées qui donnent des définitions plus simples. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Bon, mais aussi, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'Église? Qu'est-ce que c'est que le fait religieux? Vous avez des entrées islam, pour prendre quelque chose de très contemporain qui fait la une des journaux. Donc, vous avez une entrée islam. Autrement dit, vous avez des entrées qui sont des entrées de connaissance et de réflexion pour un public cultivé, pas seulement universitaire. Alors, les collègues historiens trouveront-ils quelque chose dedans? Oui, je le pense. Je reviens sur la crise de l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Enfin, dont je vous parlais tout à l'heure. La crise de l'histoire consiste en ceci. Pendant très longtemps, on va dire, au moins depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale, se sont imposés des concepts, structures, conjonctures, influencés par une histoire marxiste ou anthropologique, mais en tout cas, on va dire plutôt marxiste, qui a soudé l'histoire économique, l'histoire sociale, et qui ont amené à définir la société avec un grand S comme une entité. Depuis plusieurs années, et on voit bien, en suivant la production de la revue Les Annales, comment ça a bougé. Le mot société est presque un gros mot. Le mot économie est devenu un gros mot. L'histoire n'est plus que représentation. Et à force de dire qu'elle est représentation, ou que toutes les sources sur lesquelles nous travaillons sont des représentations, ce qui est absolument exact, on finit par ne plus pouvoir écrire, ou plus pouvoir faire de l'histoire. Puisque c'est une représentation, où est la réalité? Est-ce que l'histoire peut décrire la réalité? Est-ce qu'elle a le droit de décrire la réalité? Donc vous voyez que tout se délite. C'est pas faux, hein, il faut beaucoup réfléchir à tout cela. Et le dictionnaire a pour ambition de montrer qu'il y a d'autres outils, d'autres concepts qui permettent de mieux réfléchir ou de faire une histoire autrement. Il y a une entrée acteurs sociaux, par exemple. Le terme est employé, emprunté à la sociologie. C'est une entrée remarquable, hein. Les acteurs sociaux, cela veut dire que la société est composée, effectivement, de gens qui peuvent avoir plusieurs facettes à l'intérieur de la société. Acteurs sociaux, circulation, micro-histoire. Mais vous avez aussi une entrée conjoncture et structure, qui va ensemble d'ailleurs. C'est la même entrée. Pour montrer comment l'histoire a évolué, vous avez une entrée réseau, pour justement montrer comment se solidifie, comment s'unissent ces fameux acteurs sociaux, comment ils peuvent être mouvants à l'intérieur de la société. Autrement dit, l'histoire qui se fait actuellement est une histoire qui doit tenir compte de toutes ces nouveautés et il y a une entrée circulation. Alors, j'insiste sur cette entrée parce que elle est à la fois circulation des idées et circulation des savoirs et circulation des biens économiques. Très honnêtement, je vais vous dire comment c'est venu. J'avais demandé à une grande spécialiste d'histoire économique, Dominique Margaraz, de travailler sur l'économie. L'histoire économique, j'ai attendu longtemps avant d'avoir l'entrée par son mari, Margaraz. J'ai d'ailleurs dû être... Je me suis un peu fâché, j'ai dit, écoutez, vous dites que l'histoire économique est la parente pauvre désormais de l'histoire, si vous ne me donnez pas d'entrée, ça ne va pas marcher. Hein ? Bon, je veux absolument une entrée histoire économique, pour faire le point. Elle est d'ailleurs historiographiquement très intéressante, cette entrée. Et c'est d'elle-même, elle m'a dit, écoute, Claude, je te fais une entrée circulation. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai tout de suite dit, mais bien entendu, c'est ça la dynamique actuelle de l'histoire économique. Et de l'histoire culturelle. Ça remplaçait la notion que j'ai enseignée, moi, il y a encore une dizaine d'années, de transfert culturel. Transfert culturel, ça veut dire qu'il y a des entités nationales. Vous voyez, la frontière. Les, comment dire, les contaminations culturelles sont bien plus subtiles que ça. Et ça inclut aussi, cette idée de circulation, les techniques. Les artisans allant d'un lieu à l'autre. Moi, je prêche pour ma paroisse médiévale, mais très souvent, il n'y avait pas de frontières. Les constructeurs de cathédrales n'ont pas de frontières. Les verriers des cathédrales n'ont pas de frontières. C'est justement ce qui rend très difficile de travailler sur les écoles artistiques. Il y a des contaminations. C'est la circulation qui est le lien, hein, de tout cela. Donc, on vous trouverait des entrées qui sont en pleine... problématique actuelle de ce qu'est l'histoire.
Je rebondis sur l'entrée circulation.
Oui.
Dominique Margaraz a beaucoup travaillé sur les routes. Est-ce qu'il est question du voyage, par exemple, oui, de la circulation des hommes, des phénomènes, oui, migratoires, ou est-ce qu'ils sont traités ailleurs ?
Ils sont traités ailleurs, souvent parce que les entrées ne sont pas très longues. Pour une simple raison, vous voyez, les entrées ne sont pas très longues parce qu'on ne peut pas faire des entrées trop longues dans un dictionnaire. C'est un problème de genre de l'ouvrage. Donc on fait des renvois, mais vous avez à la fin de chaque entrée des renvois. Vous voyez ? Des renvois aux migrations, des renvois à la démographie, des renvois à l'économie, etc. C'est par ce biais-là, on arrive à faire des liens à l'intérieur du livre pour une démonstration plus affinée, plus approfondie.
D'accord. Alors, vous êtes médiéviste,
oui.
Jean-François Cirinelli,
oui,
est contemporanéiste. Il n'y a pas de moderniste entre les deux.
Est-ce si, que si, si, ça, si, il y a Jean-Marie Le Gall.
Il y a Jean-Marie Le Gall, oui.
Oui.
Est-ce que ça ne vous a pas posé de problème?
Non.
Et je dirais, ça se retrouve aussi au niveau des articles. Parce oui. que, par exemple, je vais prendre oui. plusieurs exemples. L'article jeunesse a été confié à une contemporaniste, oui. Ludivine Bantigny. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas de difficultés pour traiter des jeunes à la période médiévale ou est-ce qu'elle les écarte? C'est pareil, par exemple, l'alimentation a été oui. Confiée à Bruno Larouilloux, qui est un médiéviste, oui. mais l'histoire de l'alimentation, elle a beaucoup évolué ces dernières années pour oui. le XVIIIe siècle. Donc, oui. Comment vous avez résolu le problème?
Ça, c'est très difficile. Non, alors, donc, je dis, il y a un comité scientifique, hein, dans lequel il y a justement Stéphane Benoît et aussi Jean-Marie Le Gall et Anne-Emmanuel de Martigny. Parce que le XIXe siècle, c'est pas le XXe, hein. J'ai appris ça, vous savez, depuis longtemps dans la revue historique. Hein. L'histoire du temps présent, c'est pas le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est presque le Moyen-Âge. Hein. Voilà, on est d'accord?
Ils ont
presque.
Des techniques totalement différentes.
Voilà, totalement différentes et aussi des résultats totalement différents. On est d'accord? Bon. Très bien. Il n'est pas là, Jean-François. Il n'a pas pu venir parce qu'il a, eu, il a été opéré de la cataracte, c'est rien du tout. Mais il n'a pas voulu prendre le train le lendemain de l'opération, ça peut se comprendre. Donc, voilà, je peux dire tout haut ce que je lui dis tout haut toujours, c'est-à-dire, vous êtes un journaliste. Non, j'exagère. Parce qu'il a aussi la méthode historique, la preuve. C'est qu'on a écrit ensemble l'entrée historien. Hein, et on était parfaitement d'accord. Donc, ça, c'est une petite guerre. Non, il y a... Alors, ça, c'est gênant. Absolument, c'est très gênant. Et on a essayé de compenser. C'est-à-dire de prendre celui qui avait le plus de... comment dire, le plus abouti peut-être, dans l'immédiat, vous voyez, pour le thème traité. Alors, jeunesse, par exemple, vous faites très bien de prendre cet exemple, parce que jeunesse est traitée par une contemporanéiste, mais à côté de cela, les âges de la vie sont traités par Didier Lette, qui est un médiéviste, à un moment où les rituels de passage d'un âge à l'autre sont beaucoup plus développés. Donc, il y a des compensations, si vous voulez, qui font qu'on se retrouve sur une histoire que moi, je veux une. Je dis, ça ne m'a pas beaucoup gênée. C'est vrai que je ne prétends pas savoir tout ce qui se passe en histoire sur 21 siècles. Non, certainement pas. Mais en même temps, bon, j'ai quand même présidé le jury d'agrégation pendant 4 ans. J'ai été au concours pendant plusieurs années. Donc, pour moi, l'histoire, c'est un tout. Je suis médiéviste, c'est vrai, mais ça n'est qu'une spécialisation à l'intérieur d'une discipline beaucoup plus... d'une seule discipline, qui est l'histoire. Voilà. C'est, je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais je ne pense pas que ça soit très gênant. Je ne pense pas que ça soit très gênant, d'autant qu'il y a, si vous voulez, des entrées qui retombent sur leurs pieds en étant plus conceptuelles. Et là-dessus, on est tous d'accord. L'entrée témoignage, l'entrée, par exemple, téléologie, l'entrée valeur, l'entrée norme, l'entrée... Ce sont des entrées qui ont été faites par des spécialistes de la contemporaine, de la médiévale. Mais en même temps, on est parfaitement d'accord. Quand je lis, j'ai lu les textes... Alors, pour la petite histoire, je peux quand même vous dire que les collègues sont quand même des gens très bien. Parce que... on n'a pratiquement rien rectifié. C'est pas mal quand même. Sur le nombre d'entrées, on n'a pas réécrit. On a fait préciser quelques petites choses, c'est normal, mais pratiquement rien. C'était quand même très... Tout le monde a voulu et compris. Et je pense que, étant donné que ces livres, vous savez, ne rapportent rien à leur auteur, c'est d'autant plus méritoire. Ça veut dire que, finalement, ils ont écrit parce que ils avaient envie de défendre la discipline. Donc, quelque part, c'est quand même très positif.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition des entrées? Il y en a, vous nous l'avez dit tout à l'heure, 355, je crois. Il y a plusieurs niveaux d'analyse. Oui. Comment vous les avez choisis? Il y en a qui concernent des concepts, il y en a qui concernent des oui. méthodes historiques, des historiens, des lieux, des personnes. Comment tout
alors,
ça...
Alors, les personnes, très peu. Enfin, les personnes, non. N'attendez pas dans ce dictionnaire une entrée Marc Bloch, par exemple.
Des groupes.
Oui, voilà, des groupes. Non, mais je pense qu'il vaut mieux le dire pour le public. Il n'y a pas d'entrée Marc Bloch, il n'y a pas d'entrée Seignobos, il n'y a pas d'entrée Braudel. Ça, nous l'avons refusé dès le départ. Ça a été long, hein. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant un an, une année entière, nous nous sommes réunis, alors évidemment pas tous les 8 jours, mais pour mettre en place l'organigramme du dictionnaire. Ça a duré 1 an, hein, la gestation, et après 3 ans, 3 ans, 4 ans de travail. Parce qu'il ne fallait pas, et on en a rajouté. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, on disait, mais attends, là, on n'a pas pris ça, mais c'est fou. Et vous voyez, j'ai un regret, je peux vous le dire. Il me concerne. Il n'y a pas d'entrée vengeance. Il n'y a pas d'entrée vengeance, alors je suis quand même une spécialiste de ce genre de choses. J'ai une entrée vengeance dans le dictionnaire du Moyen-Âge. Et comme une sorte de, comment dire, de retrait par rapport à moi-même. Hein. Voilà. Et l'entrée crime, j'ai pas voulu la rédiger. Vous voyez ? Parce que j'avais pas envie. Mais je me suis dit quand même, non, là, tout le monde m'a dit il faut du crime. Mais vengeance, ils n'y ont pas pensé, moi, c'est un. Comment dire ? C'est du Freud, c'est Freud, hein. Je sais pas comment il faut l'expliquer, enfin bon, bref. Voilà, c'est rien, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Si un jour il y a une réédition, j'essaierai de faire rentrer la vengeance quand même.
Vous l'avez confié à qui l'entrée crime ?
À Xavier Rousseau.
D'accord.
Qui est justement quelqu'un que je connais bien, qui est capable de travailler jusqu'au XXIe siècle. Mmh. Voilà. Donc, depuis pratiquement l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. C'est une entrée de réflexion d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le crime, hein ? À quel moment l'historien peut-il s'emparer du crime ? Comment est-ce qu'il le traite, etc. Alors, oui, vous avez raison, il y a 3 niveaux. Hein. Alors, le choix était compliqué, évidemment. Et ça aussi selon les affinités de ceux qui étaient dans le comité scientifique, vous voyez. Il y a un peu d'histoire religieuse, même pas mal, je trouve, en regardant le texte. Mais on a visé à ce qu'il y ait une histoire juive. Il y a le Talmud, il y a des choses qui sont, il y a la Bible, mais il y a aussi le Talmud. Il y a le Coran et il y a l'islam. Et ça, je l'ai confié. Alors là. À quelqu'un qui est. J'ai oublié son nom. Je ne connais que lui. Ça y est. Éric Vallet, qui est un très jeune historien. Enfin, très jeune. Il est moins jeune qu'il a été, évidemment, mais enfin, qui doit avoir 35 ans. Qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Et qui travaille sur l'islam médiéval. Mais je l'ai fait exprès. Parce que je ne voulais pas entrer dans des choses trop compliquées, politiquement parlant, je veux dire. Et c'est quelqu'un qui a fait sa thèse, c'est comme ça que je l'ai connu, moi, à l'école doctorale de Paris 1, sur les marchands d'Arabie, l'actuelle Arabie saoudite, si vous voulez, du Yémen, au XIVe et XVe siècle. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'arabe. Hein, et donc on lui est confié Coran et pas un théologien, vous voyez, un historien pur et dur. Voilà, pour vous donner un exemple d'entrée délicate. Hein.
Alors, vous avez évoqué les articles que vous avez vous-même rédigés. Comment s'est effectué ce choix ? J'ai repéré par exemple un article sur les normes. C'est un article difficile. Quels sont les objectifs de cet article ? Est-ce que vous l'avez choisi à dessein ? Quel est son contenu ? Et quels sont les autres articles que vous avez rédigés ?
Alors, bon, j'ai rédigé normes. Alors, prenons l'exemple de normes, si vous voulez. Pourquoi j'ai pris normes ? Parce que c'est une vieille histoire, hein, quelque part. J'ai été, au moment où il y avait beaucoup de liens entre, vous savez, la maison française de Göttingen, hein, malheureusement disparue et en voie de menace, plus que menace même, maintenant à Francfort, mais rattachée miraculeusement par l'intermédiaire de Pierre Monet. Compliqué, les établissements français à l'étranger, vous savez, c'est plutôt en restriction. Donc on m'avait demandé de faire quelque chose sur les rencontres entre les historiens allemands et les historiens français. Et on m'avait demandé les normes. Pourquoi ? Parce que je travaille sur la criminalité. J'ai travaillé beaucoup sur, effectivement, la justice. Et j'ai défendu l'idée qu'il n'y avait pas que le droit. Il y a une entrée droit hein, aussi. Qui d'ailleurs est rédigé par un juriste qui dit que les historiens ne doivent pas s'en emparer, alors qu'ils peuvent s'emparer des normes, Parce que les normes, ce n'est pas le droit. C'est le droit plus d'autres éléments de régulation, la coutume, mais aussi une régulation non écrite, ritualisée pour la période médiévale, mais pas seulement, même encore à l'époque contemporaine. Hein, la politesse est une norme. Donc, j'ai voulu le faire parce que j'avais dans la tête vraiment très précisément ce que j'avais envie de dire, hein, et de le faire passer pour un public plus large. Et puis, j'ai rédigé Réseau, parce que ça me paraissait évident qu'il fallait le faire, et que personne n'avait été contacté, et que ça allait tellement bien avec acteurs sociaux et circulation, et en plus j'ai été responsable scientifique du CTHS pour les réseaux, donc j'avais des choses à dire. Et puis j'ai rédigé, alors j'ai refusé Crime, je vous l'ai dit, j'ai rédigé Étranger, et ça c'est volontairement. Alors vous voyez, dans un dictionnaire comme ça, c'est compliqué. Parce qu'on a beau faire un organigramme, se réunir pendant un an, il y a des entrées qu'on oublie. Et quand j'ai eu les textes, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. On n'a pas étranger. Alors, Cyrine, elle me dit, bah oui, vous avez raison, il faut qu'on trouve quelqu'un. J'ai dit, bon, bah, je le fais. Et je le fais pourquoi ? Je l'ai fait pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai quand même pas mal travaillé sur l'étranger, hein. À Leeds et ailleurs, enfin bon, peu importe. On a pas mal travaillé sur l'étranger. Et puis, si vous voulez, je l'ai dit et je l'ai écrit, l'histoire, pour moi, c'est une école de la tolérance. J'ai pas peur de ce mot, qui est très 18e siècle, monsieur le moderniste. C'est une école de la tolérance parce que l'historien travaille sur l'autre. On ne pouvait pas faire une entrée autre. Ça aurait été ridicule. L'historien travaille constamment sur l'autre, sur ce qu'il n'est pas, sur ce qui a été, sur les hommes qui ont été. Et pour le coup, avec un regard qui doit être un regard du respect de la source, donc un respect de l'autre. Je ne dirai jamais, moi par exemple, c'est pas ni de mon vocabulaire et de mon analyse que telle société est archaïque. Elle est autre, avec ses façons d'être, etc. Donc, j'ai fait Étranger avec beaucoup de bonheur. Beaucoup. C'est vraiment une des... Là, je me suis, j'allais dire, lâchée. J'ai pas mis longtemps à l'écrire, parce que j'avais vraiment envie de faire passer le message de la construction d'étrangers.
Alors, il y a des entrées qu'on attend qui sont classiques, comme village, comme université.
Oui. Pardon, je vous interromps tout de suite. Village a été écrit par Robert Fossier juste avant sa mort. C'est probablement un de ses derniers écrits.
Il y a
le dernier.
Plusieurs articles de sa plume.
Non, Village et Vie quotidienne.
Oui. Oui, voilà. J'ai lu les deux parce que j'aimais bien Robert Fossier.
Voilà, mais juste, c'est sa femme qui nous a transmis le... Mm. Voilà, donc c'est aussi un hommage qu'on lui fait.
Et donc, il y a des articles qui sont incontournables. Et puis, il y en a d'autres qui appartiennent davantage à des fronts pionniers de l'histoire, de la recherche historique. J'ai été particulièrement sensible à tout ce qui est autour de sens, sensibilité, émotion, que vous avez confié essentiellement à une élève d'Alain Corbin, Emmanuelle de Martini. Qu'est-ce qu'elle apporte à ce niveau-là
Vous savez, Emmanuelle de Martini, on a la chance de l'avoir dans le comité de lecture de la revue historique. C'est un bonheur absolu. Emmanuelle de Martini est quelqu'un qui travaille sur justement toute la sensibilité, à la fois le genre, mais aussi l'histoire des sensibilités. Un peu à la... C'est vraiment une héritière d'Alain Corbin. Hein. Et je pense qu'il y a là tout un champ de la recherche actuelle qui est d'ailleurs... qui, à mon avis, est mieux traité en France qu'aux États-Unis. Je m'explique. L'histoire des émotions, c'est quand même une histoire qui est peut-être née un peu plus outre-Manche. Hein, je pense avec à une médiéviste que j'aime bien, qui est Barbara Rosenwein, qui a mis en avant les sociétés émotionnelles. Bon, moi, j'irai pas jusque-là. Mais il faut, donc c'est pour ça que je pense que c'est mieux traité en France, et l'histoire des sensibilités est quelque chose qui est riche et qu'il faut faire passer. Ça fait partie du champ historique actuel, comme vous l'avez dit. Hein. Bon, comme le genre. Il y a aussi de l'entrée-genre, oui, bien entendu. Mais c'est traité, j'allais dire traité à la française. Et c'est un vrai grand compliment, parce que moi qui ai fréquenté beaucoup, enfin quand même pas mal, les historiens américains, c'est enthousiasmant, mais c'est quand même parfois, ça sonne faux, parce que ça va trop loin.
D'accord. Je me consacre un petit peu aux sources. Oui. Il y a des entrées sur les sources. Oui. Il y a une entrée sur la correspondance, par exemple, qui est fort intéressante. Oui. On travaille de plus en plus sur les correspondances, oui, à l'heure actuelle, et c'est à relier d'ailleurs à tout ce que vous nous, oui, avez dit sur les réseaux. Oui. Mais par contre, il n'y a pas d'entrée sur les écrits du fort privé. Pourquoi ? Alors que c'est à la mode aussi.
Oui, c'est vrai. Ça a été plutôt mis avec l'intime, mais bon.
Oui.
C'est vrai que vous avez raison, il aurait pu avoir une entrée, je vais le noter, parce que c'est une très bonne idée. Des écrits du fort privé, c'est oui. C'est
pour vrai. Une réédition.
C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, c'est une prochaine édition.
Et c'est à relier justement à tout ce qui se fait autour de l'intime,
absolument.
Donc c'est complémentaire.
Et de la vie privée.
Et de la vie privée. Voilà. Et il y a une entrée vie privée.
Voilà, il y a une entrée vie privée.
Oui.
Et l'étude du fort privé est moins ringard que vie privée.
Oui.
On
oui.
est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Voilà. Mais bon.
Dans le même ordre d'idées, mais il ne s'agit pas pour moi de pointer du
non,
tout
non, mais
des...
Si, il faut.
Mais il y a une entrée alimentation,
oui,
et puisque nous sommes à Bordeaux, il n'y a pas d'entrée boisson, il n'y a pas d'entrée vin.
Il n'y a, pas... ouais, oui, a pas d'entrée vin, c'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'on est... Bon, c'est parce que Cyrinelli ne boit que du Coca-Cola.
C'est une bonne réponse.
Je m'en tire pas mal, hein.
Non, oui, c'est une bonne réponse.
Mais c'est vrai en plus.
Non, mais je sais ce
mais
que c'est.
Je vais lui dire, oui, non, mais vin. Oui.
Ou boisson, plus,
oui,
plus
ou
large,
boisson,
parce qu'il
y
a des recherches qui se développent à l'heure actuelle sur,
oui,
les eaux minérales, par exemple.
Mais non, boisson. La boisson, c'est très important.
Oui.
D'autant plus que j'aurais dû y penser, parce que boire et manger ensemble, c'est le lien.
Oui, c'est exact. Dans les auteurs, alors il y en a un qui m'est plus particulièrement cher et que vous connaissez bien. Il n'y a pas beaucoup de Bordelais dans ce dictionnaire, mais il se trouve qu'il y en a un quand même. Du moins, qui a fait ses études à Bordeaux, qui a été mon élève, que j'ai fait intégrer à Normale Sup il y a de cela, et oui, une vingtaine d'années. C'est Bruno Dumézil, qui est un historien dont on parle beaucoup, qui est un historien du haut Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bruno Dumézil? Quelles sont les entrées auxquelles il s'est consacré? C'est un
barbare.
Jeune historien.
Barbare. Mais vous savez, ça c'est moi qui l'ai poussé là, parce que il a tout de suite dit oui. Hein. Barbare, parce que Bruno Dumézil, pour moi, est probablement celui qui sait le mieux synthétiser les recherches actuelles sur le haut Moyen-Âge. Voilà. Je crois que je ne peux aller que dans votre sens. Bruno Dumézil, c'est un. Si vous revenez à l'histoire personnelle de la France, ces petits volumes. Qui sont, qu'on lit, je crois, comme ça, j'espère avec bonheur, c'est à lui que j'ai confié le premier volume. Parce que, sur les barbares, ce qui l'a obligé d'ailleurs aussi à travailler sur les Gaulois. Ça, il m'a dit, je ne suis pas spécialiste, je lui ai dit oui, mais il faut commencer par là quand même. Bon, pour montrer d'ailleurs que, pour pulvériser l'ancienneté des Gaulois, enfin, je veux dire, le mythe. Hein. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui je l'espère, va avoir un avenir un peu meilleur que celui qu'il a actuellement, parce qu'il est quand même toujours maître de conférences. Je fais tout pour essayer de le valoriser. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est pour moi quelqu'un de très bon, excellent même.
Je suis bien d'accord.
Ah ben, vous savez, hein, je l'ai repéré, moi, au jury d'agrégation. Et... Il avait, je sais pas, 5 ou 6 points de plus que le deuxième. Ce qui, au concours, est énorme.
Il avait déjà beaucoup de points de plus à Normal Sup, d'ailleurs.
Oui, ça m'étonne pas.
Je voudrais terminer par une entrée qu'on attend peut-être moins, mais qui est très intéressante, je trouve, surtout dans le climat actuel, dans toutes les réflexions autour de l'éducation, c'est l'entrée manuel d'histoire.
Ah oui, on y tenait beaucoup.
Oui, je trouve que c'est une entrée importante. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
Ouais. Mais oui, on y tenait beaucoup et on l'a confié à l'inspection générale, comme vous l'avez vu.
Et à Laurent Wirth.
À Laurent Wirth, ouais. Qui est pour moi quelqu'un de... parfait dans son rôle, enfin qui était, puisque maintenant il est à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire et qui sait ce qu'il faut enseigner. Donc, ces manuels d'histoire, c'est, vous savez que les manuels d'histoire sont constamment l'objet de polémiques, comme si... épouvantable chaque fois... comme si ça tombait du ciel, alors que je peux vous dire, parce que moi j'ai été mêlée à la conception des manuels d'histoire par l'inspection générale, qui demandait à des universitaires et à des professeurs du secondaire d'être présents. Ça se discute autour d'une table, même d'une grande table, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il n'y a aucune raison que les choses aient changé. Hein. À partir de là, les programmes sont définis. Alors là-dessus, on va dire que c'est la polémique, évidemment. La polémique relayée par les médias, d'ailleurs, mais la polémique quand même aussi relayée par les parents d'élèves. Mais une polémique qui, à mon avis, n'a pas de sens. Il y a une entrée mondialisation.
Oui.
Il y a une entrée mondialisation. On est au 21e siècle dans une histoire mondialisée. On vit tous les jours la mondialisation. C'est-à-dire que ce qui se passe au Japon est su dans les 2 minutes qui suivent. Hein? Bon. Et réciproquement. Et quand on voit les effets mondiaux des attentats du 13 novembre, c'est évident qu'on est dans un monde mondialisé. Est-ce que la réponse est de ne faire que de l'histoire de France? Pour moi, la réponse est non. Je dirigeais une histoire de France, j'en suis très fière. Mais l'histoire de France, c'est une histoire de la France. Ce n'est pas une histoire nationale et encore moins nationaliste. Donc, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire qu'il faut une histoire de France... Il faut que les élèves se repèrent dans le temps d'une histoire de France, c'est évident, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a un monde extérieur et que ce monde extérieur, il faut l'appréhender avec le regard de l'historien et pas seulement journaliste. Et par conséquent, qui dit l'appréhender avec le regard de l'historien dit au moins d'avoir quelques notions sur l'histoire du pays dans ces grandes lignes. Alors évidemment, vous me direz, vous chargez la barque. Ce qui est vrai. Vous chargez la barque. C'est vrai. C'est compliqué de faire l'équilibre entre une histoire de la France, qui me paraît quand même plus que nécessaire, pour ne pas se tromper de racines, justement, pour ne pas se tromper de racines, et une histoire mondialisée. C'est tout un équilibre que Laurent Wirth a d'ailleurs essayé de défendre dans les programmes et dans les manuels scolaires, dans les manuels d'histoire qu'il a évidemment suscité en définissant les programmes. Mais on y tenait beaucoup parce que pour nous l'histoire, c'est pas seulement, si vous voulez justement, l'histoire qui se fait, c'est aussi l'histoire qui se diffuse. C'est-à-dire l'enseignement, évidemment.
Absolument. J'ai encore quand même une dernière question cette fois.
Bien sûr.
d'un article que j'ai trouvé un très bel article. Il en est beaucoup question aujourd'hui et ça montre aussi la diversité des dictionnaires. Cet article environnement qui a été, alors c'est quelque chose qui est à la mode, certes. Il a été confié à François Walter, qui est un excellent spécialiste de ces questions, qui réalise une belle synthèse.
Magnifique cet article.
J'ai trouvé c'était un très 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 bel article. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour le public ?
Oui, alors justement, François Walter, moi je l'ai connu. Au tout début de la direction du Neugordien, alors au PUF, il a écrit avec Robert Delors à l'époque une histoire de l'environnement qui était, c'était la première année, enfin la première fois, ça devait être en 98-19, quelque chose comme ça, donc on parlait à peine encore de l'histoire de l'environnement. Et le Neugordien, par définition, c'est une collection. On essaye de montrer quel est le nœud, hein, voilà. Et je l'ai connu là, et j'ai dit, ça c'est à lui qu'il faut de la confier, parce que d'abord il a un esprit de synthèse formidable, il enseigne à Genève, enfin il doit maintenant être à la retraite, hein, je pense.
Oh, mais où j'en suis pas sûr.
Oui. Mais enfin bon, il est à Genève, et de toute façon il reste attaché à l'université de Genève, et c'est un esprit très ouvert, très très ouvert. Parce que pour faire de l'histoire de l'environnement, non seulement il est ouvert, mais il est complet. Pour faire des histoires de l'environnement, il faut être à la fois scientifique, chimiste, hein, c'est à peu près ça, biologiste et historien. Et il réunit toutes ces qualités, donc voilà pourquoi c'est lui qui a fait l'entrée, il l'a accepté. Et ça, j'étais vraiment ravie, parce que c'est quand même quelqu'un dont j'ai vraiment apprécié à la fois la droiture aussi, historique, qui est une droiture humaine, mais aussi historique.
Oui, je crois que c'est vraiment un excellent choix. Je crois qu'il faut vous remercier d'avoir su marier avec autant d'habileté et avoir su rendre le propos très agréable entre la construction du livre, l'histoire de la construction du livre, parce que c'est une aventure collective, et donc il y a toute une construction derrière, et puis vos réflexions personnelles d'une historienne du 21e siècle. Merci beaucoup, Claude Govard.
Merci beaucoup à vous aussi.